Il est 11h30 en temps universel, 13h30 à Paris et à Bruxelles.
RFI Midi.
C'est le début d'une demi-heure consacrée à l'actualité européenne. Nous allons parler de la foule réunie dans la basilique Saint-Pierre à Rome pour rendre un dernier hommage au pape François, des discussions sur l'avenir de l'Ukraine sans les hauts responsables initialement attendus. Ce sont deux sujets qui seront à la une de votre journal. Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Vous nous parlerez aussi.
Alors on va parler aussi de l'hommage donc au pape où nous rejoindrons Amira Swilem à Jérusalem pour suivre la messe au Saint-Sépulcre et voir quelle délégation se rendra au Vatican pour les funérailles du souverain pontife ce samedi. Comme Bastan, à New Delhi reviendra sur l'attaque au Cachemire qui a fait 26 morts, une attaque contre des touristes, la plus meurtrière depuis 25 ans dans cette région. Nous prendrons ensuite la direction des États-Unis. Nicolas Feldman nous expliquera pourquoi Elon Musk prendra ses distances avec l'administration Trump pour retourner aux affaires. Et nous verrons aussi comment les juges américains détricotent un à un les décrets présidentiels avec Karine Hutton. Et puis Olivier Roger nous parlera des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire Larousse, ils sont 150 comme la boccia, un sport qui ressemble à la pétanque mais pratiqué en fauteuil roulant que nous avons découvert lors des Jeux Paralympiques de Paris l'an passé. Et puis le glamping, la dramédie ou encore le verbe astruquer, des mots Anne que je ne connaissais pas.
Et ben moi non plus, donc on a hâte d'en savoir plus. A tout à l'heure Olivier.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Pour l'heure, on va parler de l'avenir de l'Ukraine, puisque les autorités ukrainiennes et les alliés européens américains devaient se réunir aujourd'hui à Londres. L'objectif, c'était d'obtenir une réponse claire de la Russie en vue d'un cessez-le-feu toujours très hypothétique. Initialement, cette réunion devait se tenir en présence des ministres des Affaires étrangères des pays concernés, mais en fin de compte, la réunion a lieu au niveau des conseillers diplomatiques de premier rang. Et c'est un signe, Alice Froussard, des difficultés qui entourent ce dossier. Rien ne semble annoncer pour l'instant des avancées concrètes.
Oui, d'abord au niveau du casting, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, ne fait pas le déplacement. Il sera remplacé par l'émissaire spécial pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg. David Lamy, le ministre britannique des Affaires étrangères, sera absent lui aussi. La France, quant à elle, sera représentée seulement par des hommes de l'ombre. Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique du président Emmanuel Macron, et Frédéric Mondoloni, directeur des affaires politiques du Quai d'Orsay. De son côté, l'Ukraine envoie une délégation importante. Elle souhaite marquer le coup. « Nous allons, malgré tout, œuvrer pour la paix », a écrit sur Telegram André Yermak, l'influent chef de l'administration présidentielle. Et martèle-t-il, même si le chemin n'est pas facile, l'Ukraine a toujours été et reste engagée dans les efforts de paix. D'après ce dernier, arrivé à Londres, accompagné du chef de la diplomatie ukrainienne et du ministre de la Défense, les discussions du jour devraient porter sur les moyens de parvenir à un cessez-le-feu complet et sans condition.
Mais au niveau des déclarations américaines, là non plus, rien ne bouge.
Oui, d'après plusieurs médias américains, Washington soutient désormais la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, ce territoire ukrainien annexé illégalement en 2014. Il s'agirait pour Donald Trump, selon le Washington Post, le Wall Street Journal et le New York Times, d'accélérer le processus de cessez-le-feu et d'accéder ainsi à l'une des exigences prioritaires de Moscou. Car rappelons-le, le président américain continue de pousser pour obtenir une issue rapide au conflit en Ukraine. Dimanche 20 avril, il a dit espérer un accord dans la semaine. Les Américains s'impatientent, en témoignent d'ailleurs les toutes dernières déclarations de J.D. Vance, le vice-président. Il est en visite en Inde et ce dernier a déclaré que les États-Unis ont soumis une proposition très explicite à la Russie et à l'Ukraine concernant la voie à suivre vers un accord de paix. Une proposition qui inclut des concessions territoriales. Il est temps pour eux de dire oui ou bien les États-Unis de se retirer du processus. Le message est très clair, les États-Unis ne semblent pas vouloir faire de cadeaux. L'Ukraine et les Européens sont livrés à eux-mêmes.
Et sur le terrain aussi, les perspectives d'un cessez-le-feu semblent très lointaines.
Oui, les attaques aériennes russes ont repris de plus belle après une brève trêve de Pâques. Ce matin à Marganets, dans le sud-est de l'Ukraine, un drone kamikaze russe a visé un autobus. 9 personnes ont été tuées, 32 autres ont été blessées. Et dans la nuit, des incendies se sont déclarés dans plusieurs régions ukrainiennes à la suite d'attaques russes.
Alice Froussard.
RFI Midi.
Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans et autour de la basilique Saint-Pierre à Rome pour se recueillir devant la dépouille du pape François, conduite ce matin de la chapelle où le souverain pontife reposait depuis son décès lundi. Le père Timothy Nelson, un religieux du Michigan aux États-Unis, se trouvant à Rome pour les fêtes de Pâques, a suivi la cérémonie de translation du cercueil ce matin. et il s'est confié à notre envoyé spécial.
Le cercueil du pape vient d'entrer dans la basilique Saint-Pierre et les fidèles vont pouvoir passer devant le cercueil et lui rendre hommage. C'est très fort, très triste, très émouvant, car le pape François, tout au long de son pontificat, a prêché la miséricorde de Dieu. Et maintenant, nous prions pour qu'il rencontre personnellement la miséricorde de Dieu au ciel. C'est évidemment très émouvant, mais porteur d'espoir, car notre foi nous donne l'espérance qu'il y ait une vie après la mort. Et quand je vois le pape François porté dans son cercueil, je pense à ma propre mort, et que je vais devoir y faire face, moi aussi, un jour. Alors, je prie pour recevoir, moi aussi, la miséricorde de Dieu.
Le recueillement pour de nombreux fidèles comme le père Timothy Nelson avant les obsèques samedi matin. Ensuite, les cardinaux prépareront le conclave, la réunion au cours de laquelle ils devront désigner le successeur de François. Et il semblerait, Dominique de Zonnet, que l'intelligence artificielle est la réponse à la question que de très nombreux observateurs se posent depuis lundi. Qui pour remplacer le pape François ?
Oui, lors du décès du chef de l'Église catholique, les cardinaux âgés de moins de 80 se réunissent en conclave dans la chapelle Sixtine au Vatican. Ils prêtent alors un serment de confidentialité et à la suite d'une messe d'ouverture, commencent à voter. Le scrutin se déroule à butin secret jusqu'à obtenir une majorité des deux tiers pour désigner le nouveau souverain pontife à raison de 4 sessions par jour. À chaque séance, les bulletins qui sont brûlés délivrent par une cheminée visible depuis la place Saint-Pierre une fumée noire si aucun pape n'a été élu, ou blanche en cas d'élection définitive. Mais voilà, à moins de se déguiser en surmulot et en évitant les chats moines, cela va sans dire, qui rôdent au Vatican, rien ne fuitera sur la désignation du prochain pape. En revanche, les programmes IA comme ChatGPT disposent désormais de nombreuses données pour établir un pronostic en évaluant les chances de tel ou tel cardinal. La dernière version d'OpenAI s'est donc métamorphosée en oracle afin de calculer leur possibilité de l'emporter en s'appuyant sur 5 critères précis, notamment la composition sociologique du collège électoral, la volonté d'une continuité ou d'une rupture du prochain pape qui serait ressentie par les fidèles, la gouvernance et la diplomatie dont il ferait preuve, l'âge et la santé du futur capitaine du Saint-Siège rentrent aussi dans ces critères, ainsi que l'idéologie qui anime les candidats qui devront négocier avec les différents courants internes de l'Église.
Alors, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour ChatGPT, le prochain pape sera l'italien Pietro Parolin.
Effectivement, ce cardinal, le secrétaire d'État du Vatican, obtient une probabilité de 28% de gagner avec l'appui d'une part importante des 53 Européens, surtout Italiens, désirant ramener la papauté à la maison pour assurer ainsi une transition en douceur de l'Église vers ses fondamentaux. Toutefois, Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne, lui passerait devant si les cardinaux adoptent en revanche une ligne de continuité pastorale et réformiste dans l'esprit de François. Son challenger serait le Philippin Luis Antonio Tagle, qui totalise un score de 24%, étant soutenu par la quasi-totalité des 23 cardinaux asiatiques, africains et latino-américains, envisage ChatGPT. Le Ghanéen Peter Turkson arrive en cinquième position avec 12% des intentions de vote, mais l'IA lui a attribué plutôt le statut de faiseur de roi dans cette élection que celui de favori.
Mais même ChatGPT joue la prudence, Dominique, et rappelle qu'une surprise n'est pas à exclure.
Oui, les conclaves de 1978 et 2013 nous le rappellent, argumente ChatGPT. Dans ce cas, le français Jean-Marc Aveline a toutes ses chances, notamment si les votes des cardinaux italiens de l'Asie, de l'Amérique latine et ceux d'une partie de l'Afrique se neutralisent, anticipe le logiciel. Bien évidemment, le programme d'OpenAI est incapable de prédire l'avenir, mais le résultat du conclave constituera en revanche une excellente évaluation des progrès dans le domaine des statistiques dont seraient capables les IA génératives.
À demain, Dominique de Zonnet.
RFI Midi.
Nous vous emmenons maintenant en Turquie où le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan s'attaque de plus en plus directement aux homosexuels, aux bisexuels et aux personnes transgenres. 2025 a été décrété année de la famille et ça, cela signifie que pour tous ceux et celles qui ne forment pas une famille hétérosexuelle traditionnelle, l'année sera très difficile. Les autorités visent désormais ouvertement les associations qui défendent ces groupes. Elle prépare en ce moment une loi qui pourrait aboutir à leur interdiction totale et à la criminalisation de l'homosexualité dans l'espace public. Reportage, Anne Andlauer.
Le 13 janvier dernier, Recep Tayyip Erdogan présentait les priorités de son gouvernement pour l'année de la famille, ainsi que le président turc a désigné 2025. Le ton, l'intention, la cible était claire.
À ce stade, nous le voyons de façon très nette. La cible principale des politiques de désexualisation dans lesquelles les LGBT sont utilisés comme un bélier est la famille, le caractère sacré de l'institution familiale. Cette anomalie qu'ils ont d'abord voulu légitimer en parlant de choix personnels s'est transformée en une injonction fasciste. Comme l'est la critique du sionisme, la critique des LGBT est réduite au silence.
Dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, à l'évidence, il n'en est rien. Dénoncer, dénigrer toutes les orientations autres que l'hétérosexualité, tous les modèles familiaux autres que la famille nucléaire classique, un papa, une maman et leurs enfants, est partie intégrante du discours officiel depuis plusieurs années. Le président parle d'anomalie, il parle aussi souvent de pervers et de déviants pour attaquer les LGBT, qu'il compare à la peste. La marche des fiertés autrefois autorisée est interdite depuis plus de 10 ans, tout comme le drapeau arc-en-ciel. Mais en cette année de la famille, le pouvoir veut aller plus loin. Un projet loi en préparation prévoit, entre autres, de punir d'1 à 3 ans de prison le fait, je cite, « d'encourager ou de faire l'éloge en public d'attitudes et de comportements contraires au sexe biologique de naissance et à la moralité publique ». La Turquie risque de subir un recul historique, s'alarme Kerem Dikmen, coordinateur du programme Droits de l'Homme de l'ONG Chaos GL.
Sous la période moderne de l'État turc, c'est-à-dire depuis que l'État moderne existe avec ses institutions, l'existence des LGBT+ n'a jamais été criminalisée. On le constate par exemple dans la littérature et l'art, avec une production abondante, dès l'Empire ottoman, qui montre bien que l'homosexualité n'était pas criminalisée à l'époque. Avec ce projet de loi, l'existence des LGBT+ est criminalisée pour la première fois de notre histoire. En ce sens, il s'agit d'un très grand pas en arrière.
Si le texte passe en l'état, les conséquences sur le quotidien des LGBT de Turquie seront radicales.
Par exemple, 2 lesbiennes ou 2 gays qui se tiennent la main dans la rue, ou un individu de sexe biologique masculin qui porte une jupe ou se maquille, ou bien à l'inverse, une personne née biologiquement femme, mais qui se considère comme un homme trans et se comporte, selon les critères du pouvoir, comme un homme, tout cela sera criminalisé. Tout cela sera puni de prison. Il n'y a pas besoin d'écrire dans la loi que l'homosexualité est interdite, ou de punir certaines pratiques sexuelles pour criminaliser l'homosexualité.
Le texte rédigé par le gouvernement compliquerait par ailleurs, au point de rendre quasi impossible, les procédures de changement de sexe, ou encore punirait de prison les homosexuels qui organisent une cérémonie de mariage symbolique. Symbolique forcément, puisque le mariage homosexuel est de toute façon interdit en Turquie. Mais en plus de ses conséquences au niveau individuel, la loi rendrait impossible le travail des ONG de défense des droits des LGBT. Abdullah Iqbal Arslanbash est avocat pour l'association 17 mai, une ONG LGBT basée à Ankara.
Il s'agit là d'un texte qui vise directement la liberté d'association, en plus de la liberté d'expression. En Turquie, les associations LGBT+ font déjà l'objet de pressions très intenses, que ce soit dans l'espace public, via l'interdiction de certaines de nos activités, ou encore via des inspections très poussées menées par différentes institutions de l'État et qui aboutissent à des amendes. Mais là, on parle d'une loi qui criminaliserait l'ensemble de nos activités. Par exemple, le simple fait d'apporter un soutien juridique aux personnes souhaitant changer de sexe ou de parler de transsexualité serait considéré comme contraire à la moralité publique, qui est un concept extrêmement vague. Tout cela pourrait aboutir à la fermeture de nos ONG.
Que la loi soit ou pas adoptée en l'état à plus ou moins longue échéance ne change rien au fait que les minorités sexuelles de Turquie affrontent d'année en année un climat politique de plus en plus hostile et répressif. Et ce climat n'est pas seulement lié à la montée ailleurs en Europe et dans le monde de gouvernements de droite conservateurs et populistes. Abdullah Iqbal Arslanbash.
Oui, le fait que Trump soit au pouvoir aux États-Unis ou Orban en Hongrie arrange les affaires du pouvoir turc. En matière de politique anti-LGBT+, ces gouvernements forment une alliance et s'inspirent les uns les autres. Mais au-delà de ça, le pouvoir en Turquie a aussi son propre agenda politique. D'une part, en s'en prenant au mouvement LGBT+, comme au mouvement féministe, il offre des gages aux franges les plus radicales de son électorat et donc consolide sa base. D'autre part, il se sert des LGBT+, pour attaquer toute l'opposition, des partis d'opposition à la société civile, en usant de la polarisation.
Recep Tayyip Erdogan accuse notamment le Parti républicain du peuple, le CHP, le parti du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, incarcéré le mois dernier, d'être pro-LGBT, dans le but de dénigrer la principale formation d'opposition aux yeux des Turcs conservateurs qui ne votent pas tous pour le pouvoir en place. Anadolu Ankara, RFI.
Un reportage à réécouter dans l'émission Accent d'Europe, disponible sur notre appli RFI Pure Radio.
Anne Contner.
Un coup d'œil aux journaux européens. Tous reviennent sur ces amendes imposées par l'Union européenne aux grands groupes de la tech. 500 millions pour Apple, 200 millions d'euros pour Meta, pour infraction à la concurrence. Et ce, malgré les tensions commerciales en cours avec les États-Unis, rappelle Le Soir. Mais El País, de son côté, souligne qu'il a fallu du temps pour en arriver là. Et encore, précise le journal espagnol, le montant de ces amendes est loin du montant maximal prévu par la loi. Le quotidien français Libération s'inquiète de la mystérieuse disparition de l'opposante biélorusse Angelika Melnikova, 37 ans, exilée en Pologne. Cela fait un mois maintenant qu'elle n'a pas donné signe de vie et d'autres militants craignent qu'elle ne se trouve aux mains du régime Loukachenko. Enfin, le Frankfurter Allgemeine Zeitung met en garde contre les changements liés au développement de l'intelligence artificielle. La menace sur le marché du travail est sous-estimée, écrit le quotidien. Un changement structurel bat son plein, selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, et personne ne le remarque.
RFI Midi.
C'est un animal emblématique des forêts européennes. Le loup est de moins en moins protégé. Il est même abandonné à son triste sort, selon l'organisation WWF. Car depuis quelques mois, l'Union européenne a abaissé le niveau de protection du loup. D'une part parce que la population a beaucoup augmenté, presque doublé en 10 ans, et d'autre part parce que les loups s'attaquent au bétail, notamment en Autriche où le sujet a fait la une des journaux pendant des semaines et des semaines récemment, et où des régions, en réaction, vont bien au-delà de l'assouplissement décidé par Bruxelles. Elles autorisent désormais l'abattage des loups en violation du droit européen. Reportage de Céline Béal dans un centre de recherche unique au monde qui tente de comprendre le fonctionnement de ces animaux sauvages.
Trois loups font face à Anna Gribler. L'un d'entre eux s'approche et vient renifler à travers le grillage sa main tendue. Une rare marque d'affection de la part d'animaux craintifs, privilège réservé à l'une des soigneuses animalières qui les a élevées. Le centre de recherche sur les loups Wolf Science Center à Ernstbrunn en Basse-Autriche est situé dans un parc de 50 hectares ouvert aux visiteurs. En cette matinée enneigée, personne dans les allées. Mais en temps normal, les curieux peuvent observer, à bonne distance, les animaux évoluer dans leurs vastes enclos et poser des questions aux soigneurs.
Ils ont des attitudes très variées. J'ai même déjà eu des chasseurs qui étaient très intéressés par les loups, de manière très positive. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont influencées par les médias et font un rejet absolu.
Le centre propose aussi, pour plusieurs centaines d'euros, des visites en petits groupes pendant lesquelles les intéressés peuvent entrer dans les enclos.
Nous avons aussi parfois des personnes qui viennent pour ce genre de visite, par exemple en accompagnateur, et qui ont peur des loups. Mais à la fin, ils sont convaincus. Il faut savoir que les loups s'adaptent à nos attitudes et gardent leur distance avec ces personnes. C'est très intéressant à observer.
Anna Gribler constate que la multiplication de signalements à proximité de villages, accompagnée d'articles de presse sensationnalistes, angoisse beaucoup de ses concitoyens. La peur est liée, selon elle, au manque d'informations sérieuses.
Le manque de compréhension est lié au manque d'informations qui permettent de prendre du recul. Pourquoi est-ce qu'on voit le loup de plus en plus proche de zones habitées? Pourquoi le voit-on sur les routes? Pour comprendre, il faut avoir les progrès de l'urbanisation en Autriche en tête. Le loup n'a pas d'autre choix que de traverser des zones habitées.
Et ce grand voyageur aime marcher le long des belles routes dégagées par l'homme, plutôt que de devoir se frayer un chemin à travers des terrains accidentés, ce qui multiplie les risques de rencontres. Direction le laboratoire d'essai du Wolf Science Center. Au rez-de-chaussée, la salle des tests, où les chercheurs de l'université vétérinaire de Vienne ou associés peuvent demander au Dilou Dernsbrunn de participer à toutes sortes d'expériences. En échange de récompenses, ceux-ci acceptent par exemple de courir sur des tapis roulants pour l'étude de leur mouvement. Au premier étage, le bureau de la directrice, Marianne Heberlein.
Notre particularité, c'est que nous sommes un centre de recherche qui dispose d'animaux qui ont été élevés par nos soins et qui n'ont donc pas peur des humains. C'est essentiel pour pouvoir mener des projets de recherche.
Le centre est surtout actif dans la recherche fondamentale. Il reste beaucoup à apprendre sur cet animal qui fait son grand retour en Europe, mais dont la population n'a souvent que des images sorties tout droit de contes de grand-mère, explique la scientifique.
Comment pensent-ils? Quelles compétences ont-ils? Comment perçoivent-ils leur environnement? Et puis, de l'autre côté, c'est important d'en apprendre plus sur eux parce que nous sommes très, très similaires. Eux aussi sont dépendants les uns des autres. Ils s'entraident. En apprendre davantage sur leur logiciel de fonctionnement, cela permet par conséquent de tirer des conclusions à propos des humains.
Marianne Heberlein souligne que certaines des recherches effectuées ici peuvent tout de même directement contribuer à résoudre les conflits entre le grand carnivore et l'homme.
L'année dernière, nous avons mené une étude sur la protection des troupeaux et nous espérons en avoir bientôt une autre. Dans cette étude, il s'agissait de chercher des solutions pour effaroucher les loups, pour les tenir à distance de sources de nourriture en utilisant des odeurs, des bruits, des lumières particulières. Nous voulons contribuer à des savoirs qui sont utiles dans la pratique face aux loups sauvages.
Alors que l'Union européenne abaisse à partir du 7 mars le statut de protection de cette espèce, dont le nombre d'individus a doublé en Europe ces 10 dernières années, mais pourtant encore largement considérée comme menacée, il sera à l'avenir plus facile d'abattre certains loups, quoiqu'a priori seulement en cas de menace et avec autorisation des gardes-chasse. Il y a 2 semaines, dans le Tyrol autrichien, un chasseur n'a pas attendu et il a tué un des 100 loups environ présents en Autriche. Aux autorités, il a expliqué l'avoir confondu avec un renard.
Un reportage de Céline Béal à retrouver sur notre antenne ce soir à 19h10, temps universel.
RFI midi. RFI à Berlin, 96.7 FM.
Comme chaque jour, rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, l'artiste Amandine Kuhlmann. Elle présente à la Maison européenne de la photographie à Paris une installation vidéo qui met en scène la quête frénétique de notoriété sur les réseaux sociaux. Et elle en parle à Isabelle Chenu.
So pick me, choose me, love me, love me, love me, love me.
Bonjour Amandine Kuhlmann.
Bonjour Isabelle.
On est ici à la Maison européenne de la photographie où vous exposez une installation à la fois vidéo et performance. Mmh. Où vous êtes filmée, vous vous êtes créé un personnage fictif qui veut devenir populaire sur les réseaux sociaux. C'est une jeune femme qui veut correspondre à une sorte de perfection.
Une perfection, pas forcément, mais des standards imposés, notamment sur la féminité. Le spectateur va vraiment me suivre dans mon épopée, dans ma quête de reconnaissance. J'ai vraiment cherché à faire un parallèle donc sur une jeune femme qui veut, entre guillemets, percer sur les réseaux sociaux, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que femme, le procédé reste assez similaire finalement et assez cruel, cette quête et cette demande de reconnaissance. Je me suis inspirée un peu du personnage du clown, ce clown triste et aussi absurde, en mélangeant l'absurdité et le désespoir. On passe du rire aux larmes pour créer une certaine tension et montrer la différence entre la façade et ce qui peut se passer derrière toutes ces mises en scène au final.
Vous parliez, Amandine Kuhlmann, de cruauté au sujet de ces jeunes femmes qui veulent percer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des codes. Il y a une dizaine de commandements, alors on ne va pas tous les donner, mais en tout cas il y a des règles très précises auxquelles on doit se plier.
J'ai appliqué ça de manière assez littérale en embauchant un coach en réseaux sociaux, en lui demandant quelles sont les règles pour pouvoir réussir. Dans la vidéo, on peut vraiment entendre ces règles dictées par une voix off et ça divise vraiment le projet en chapitres.
La voix off, c'est un homme.
Tout à fait, c'est la seule voix masculine qu'on entendra dans tout le projet finalement.
Est-ce que ce travail, cette installation, cette vidéo, Amandine Kuhlmann, est une critique de la marchandisation du corps des femmes sur les réseaux sociaux ?
En tant que femme, si on veut réussir, jusqu'où on doit aller pour atteindre un but, pour satisfaire un regard masculin, satisfaire un système masculin ? Par exemple, le fait d'être en bikini me vaut une exposition.
Alors vous, Amandine Kuhlmann, vous avez grandi avec les réseaux sociaux. Quand on regarde votre installation Catch Me Online, votre avatar qui est sur ces vidéos, au final, on est quand même assez hypnotisé et s'en dégage une forme de tristesse.
J'ai vraiment cherché à ce que le public ressente une sensation de malaise, attrayant esthétiquement. Notre œil a du mal à se détacher des vidéos et en même temps jouer sur l'aspect un peu pathétique de cette quête. C'est pas forcément pour critiquer les personnes qui sont à la recherche de cette validation, c'est plus pour montrer encore une fois un système, c'est-à-dire que effectivement on court parfois après quelque chose qui n'est pas forcément atteignable alors qu'on nous dit que c'est accessible à tous.
Merci beaucoup Amandine Kuhlmann.
Merci à vous.
I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch.
L'artiste Amandine Kuhlmann était au micro d'Isabelle Chenu. Dans 3 minutes, un tout petit peu plus, sur RFI, un nouveau journal, l'actualité internationale, et puis à 12h30, temps universel, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sur. Bonjour.
Bonjour, Anne Campner.
Et à la une aujourd'hui.
Tidjane Thiam, radié de la liste électorale en Côte d'Ivoire et de facto écarté de la présidentielle du 25 octobre. La justice estime que le candidat du PDCI a perdu sa nationalité ivoirienne. Décision politique accuse l'ancien parti unique. Il n'y aura pas de plan B, assure de son côté Tidjane Thiam. Quelles options sont désormais sur la table? Le politologue ivoirien Geoffroy-Julien Kouao sera notre invité. Et puis Emmanuel Macron est à Madagascar. Le président français était reçu ce matin par son homologue Andra Zoel.
A tout à l'heure Nicolas, on vous retrouve dans un tout petit peu plus d'une demi-heure. Et pour l'heure, on va écouter de la musique avec Rema qu'on ne présente plus.
Matching my steez, you know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. How see they be? How see shadow they enter? Oh yeah, make you call a B. Oh yeah, show yourself to a basabi. Love is in the air, baby breathing. I dey available, baby anytime you need me, I dey available. Compatible, two of us dey compatible. Girl I be bad boy, for girls say I dey mellow. Ah baby I dey fold, baby take it slow, baby go down low. Nobody has to know, yeah I know I play around, my man on this, you let you go. Baby, baby so money. You know say you matching my steez, you know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. I see they be, I see shadow they enter. Oh yeah, make you call a B. Oh yeah, show yourself to a basabi. Love is in the air, baby breathing.
Le chanteur nigérian Rema est le coup de cœur des programmateurs de RFI. C'est ce titre, Baby, Is It a Crime? C'est le sample, vous l'aurez peut-être reconnu, d'un autre morceau très connu de Shadé.
Love is in the air, baby breathing.